dans cette émission. Consultation présidentielle, les mouvements citoyens dont Filimbi, Echa, Lucha et les Congolais debout demandent le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de mettre un terme à la coalition FCC Cash. La Lucha propose également au chef de l'État de réduire les coûts de fonctionnement et les trains de vie des institutions. Filimbi, de son côté, demande à Félix Tshisekedi d'entamer les démarches avec les pays amis de la RDC en vue de la proposition et de l'adoption d'une résolution créant un tribunal pénal international sur les crimes commis en RDC. Pour sa part, le comité laïque de coordination CLC en sigle a remis un mémo au chef de l'État qui reprend les trois préoccupations essentielles, notamment la réhabilitation de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire et la crédibilisation des élections de 2023. Quel tir faites-vous de ces propositions? C'est l'objet du débat de ce soir. Et nous recevons dans cette émission Dirk Chaka, il est activiste des droits humains et membre du mouvement citoyen Lucha. Bonsoir, monsieur Dirk Chaka.
Bonsoir à tous les auditeurs.
Chadra Kekalenga, secrétaire et rapporteur de la coalition de la jeunesse congolaise CJC, militant pour la participation des jeunes aux instances de décision. Il est aussi secrétaire national à la NGT, Nouvelle Génération Tshisekedi, et cofondateur de la jeunesse et de l'Union Sacrée. Bonsoir Chadra Kekalenga.
Bonsoir et bonsoir à tous nos auditeurs.
Et Benoît Yulama, il est cadre du Front commun pour le Congo FCC en sigle. Bonsoir monsieur Benoît Yulama.
Bonsoir monsieur Guy.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Troisième jour hier, mercredi 4 novembre, des consultations au Palais de la Nation. Le chef de l'État semble élargir ses horizons. Outre les personnalités politiques et religieuses, Félix Tshisekedi s'est entretenu avec les différentes délégations des universités, des mouvements citoyens, des associations féminines, du secteur privé, ainsi que des personnes vivant avec handicap. Question de ratisser large au niveau de toutes les sensibilités du pays. Les comptes rendus de la journée d'hier au Palais de la Nation avec Jacques-Yves Molima.
Deux personnalités majeures ont été reçues en premier par le chef de l'État. D'abord, Jean-Pierre Bemba, leader du mouvement de libération du Congo. Ce dernier, sans faire de commentaires à la presse, a tout de même souligné son soutien à toute initiative de dialogue entre les Congolais. Ensuite, le chef spirituel de l'église kimbanguiste, Simon Kimbangu. Pour lui, en répondant à l'appel du chef de l'État, c'est dans le souci de contribuer à la paix. Il faut que la paix revienne et règne, en RDC a-t-il conclu. Le chef de l'État s'est également entretenu avec les représentants des universités et des instituts supérieurs ainsi que ceux des étudiants, entre autres UNIKIN, UPEN, ULK-UPC, UCC, USTA, ISC et IFASIC. Les mouvements citoyens, notamment Filimbi, Lucha, CLC et Congolais Debout, ont aussi été au rendez-vous. On a noté également l'entretien avec les associations féminines, CAFCO et regroupement des femmes leaders, par exemple, et aussi la délégation des personnes vivant avec handicap. Le chef de l'État a consulté toujours ce mercredi les délégués du secteur privé, notamment FEC et associations de banques. Enfin, Félix-Antoine Tshisekedi a reçu en consultation les responsables des artistes à l'instar de Prof. Yoka. Pour ces derniers, la culture africaine a toujours préconisé les palabres pour résoudre les différends entre les peuples et le moment est propice quant à ces. Enfin, le chef de l'État a aussi écouté les artistes et comédiens, entre autres Bodo Masumu, Fiston Saïsaï et Ladine Zongo Makese, dit Esobi.
Merci à vous, Jacques-Yves Molima. Dirk Chaka, je rappelle que vous êtes activiste des droits humains et membre du mouvement citoyen Lucha. Hier mercredi, vous avez répondu à l'invitation du chef de l'État dans le cadre des consultations qu'il a initiées depuis une semaine. D'abord, comment vous appréciez cette démarche qui consiste à consulter en vue de constituer une union sacrée pour la nation?
Merci beaucoup pour l'invitation à cette émission. Je salue en passant mes co-débatteurs et nos chers auditeurs. L'invitation que nous avons reçue de la part du chef de l'État pour participer à ces consultations nous est parvenue et nous avons pensé qu'il était utile d'y répondre de manière citoyenne et républicaine. Et voilà pourquoi nous avons voulu y prendre part. Mais nous avons noté, comme nous l'avons dit dans notre communication, que nous avons déploré le grand désordre qui qui règne autour de cette organisation. Nous avons déploré les retards dans les rendez-vous, les imprécisions dans l'agenda et plein d'autres, je peux dire, désordres qui règnent dans la manière, à notre sens, de l'organisation de ces discussions. Mais nous avons tenu à y répondre parce que nous avons pensé qu'il était important d'apporter directement au chef de l'État les messages que nous avons toujours essayé de lui transmettre, ceux des attentes de la population qui sont énormes.
Justement, au sujet de ces messages, chaque mouvement citoyen lui a présenté un certain nombre de ses propositions. Et ce qui ressort de toutes ces propositions, c'est que tous ces mouvements des jeunes reçus hier ont en commun une préoccupation qui est celle de voir le chef de l'État mettre fin à la coalition FCC-CACH, dire que chacun, pourquoi cette coalition FCC-CACH semble préoccuper les jeunes, du moins les jeunes qui ont été reçus hier par le chef de l'État.
Alors, notre mémorandum a porté sur trois axes majeurs, en commençant par les questions de sécurité, de justice et de diplomatie régionale, mais aussi la gouvernance sociale et économique et les réformes institutionnelles. Sur ces trois axes, nous tous avons été clairs qu'il y a besoin de pouvoir revoir ces différents aspects de la vie nationale. Mais alors, concernant la question de la coalition, effectivement, certains d'entre nous ont manifesté leur accord sur cela. Sur la question du fond, ça ne pose pas problème. Mais quand même, il y a une question qui se pose, c'est que la rupture de cette coalition n'engage que le président de la République, parce que y a-t-il eu coalition sans deal ? Cette coalition repose-t-elle sur un deal? Mais pourquoi y a-t-il eu un deal? Qu'est-ce qui sous-tend ce deal? Tant que nous ne connaissons pas le contenu de ce deal qui a mené à cette coalition, tant que le président de la République, naturellement, ne fait pas plus de transparence sur les sous-bassements de cette coalition, la meilleure de concertation ont été les élections organisées en 2018. Est-ce que les voix des Congolais ont été entendues? Est-ce que cela n'a pas été entendu? Est-ce que c'est cela qui a mené à ce deal? Si c'est le cas, alors cela n'engage que le président de la République. Il peut rompre ce deal à tout moment. Il n'a pas forcément besoin de notre accord ou de notre quitus. Il sait bien les attentes que nous plaçons dans le mandat qu'il est actuellement en train de courir. Les attentes sont nombreuses, l'insécurité, la misère de la population devient grandissante. Et sur ces questions-là, nous avons tenu à lui rappeler et à lui emmener les attentes de la population sur toutes ces questions. La question de la rupture de cette coalition, donc, est une question qui n'engage que le chef de l'État. Et donc, nous attendons de lui plutôt qu'il prenne des mesures idoines et nécessaires qui permettront de répondre aux attentes des Congolais.
Et donc, vous ne tenez pas, vous, jeune de la Lucha, vous ne tenez pas mordicus à ce que le chef de l'État puisse mettre fin à cette coalition FCC-CACH comme l'ont souhaité certains jeunes?
Naturellement, nous disons clairement que cela n'engage que le chef de l'État. S'il tient à le rompre, cela ne nous dérange pas du tout et nous pouvons l'encourager à prendre toutes les mesures nécessaires qui permettront, dans le respect de nos textes de la Constitution, de répondre aux attentes des Congolais. Pourquoi nous le disons? Parce que au départ, nous n'avons pas été consultés pour le deal, pour la coalition. Nous n'avons pas été consultés pour savoir si nous étions pour ou contre. Il s'agit d'une responsabilité du chef de l'État. Dans ce qu'il engage avec le FCC, nous ne savons pas pourquoi ce deal existe, parce que comme je le rappelle, les élections ont été la meilleure des consultations possibles faites au peuple congolais. Il s'est exprimé, est-ce que ces voix ont été prises en compte dans les résultats de la CENI? À ce jour, nous n'avons pas les résultats désagrégés. Nous ne pouvons donc pas nous prononcer de manière ferme sur une question dont nous ne connaissons pas forcément les tenants. Et nous ne savons pas non plus les termes clairs du deal. Donc, la coalition est un fait, mais est la conséquence d'un deal ou d'une entente qui s'est faite. Et donc nous pensons que qu'importe les décisions qui seront prises, maintenues ou pas, le chef de l'État a le devoir de répondre aux attentes des Congolais dans sa mission. Et donc nous lui avons apporté les attentes des Congolais et nous attendons que cela puisse être rencontré dans le mandat du chef de l'État et que les corrections et les réformes qui méritent d'être faites dans le sens de la sécurité, de la justice, de la gouvernance économique et sociale, les réformes institutionnelles doivent être menées afin que nous ayons dans les jours à venir une situation qui s'améliore et que la population se retrouve prise en compte dans les politiques publiques du pays.
Dire que chacun, vous reconnaissez que vous ne connaissez pas les contenus de l'accord qui sous-tend la coalition FCC-CACH, mais si je vous ai demandé d'apprécier cette coalition FCC-CACH, qu'est-ce que vous diriez?
Je dirais simplement que actuellement, toute la gouvernance qui a été observée, que ce soit sur le plan économique, sécuritaire, de la justice, est un échec total. Nous avons dit dans notre mémorandum qu'autant au niveau de la présidence, nous voyons la multiplication des structures budgétivores qui consomment et qui dilapident les finances publiques, autant qu'au niveau du ministère, du Premier ministre et de son gouvernement, nous ne voyons pas des actions concrètes pour répondre aux défis économiques des Congolais, pas d'investissement dans l'agriculture, pas d'investissement dans le domaine minier, le redressement des entreprises pose problème, les nominations dans les structures de l'État au lieu de pouvoir faire des recrutements sur base des compétences pose problème. Donc la gestion générale du pays pose problème. Et nous ne voulons pas simplement penser qu'il s'agit d'une question de la coalition. Nous pensons qu'il est une question de responsabilité des acteurs. Et donc, nous pouvons faire un bilan en disant tous ceux qui sont à la base de la gouvernance du pays actuellement, dans les différentes institutions, ne sont pas à la hauteur. Le résultat est que l'insécurité est grandissante, la misère va son plein, la justice n'existe pas, les luttes de positionnement autour des institutions se posent, les textes ne sont pas respectés, le social des Congolais est en train chaque jour de s'empirer, les réformes institutionnelles ne suivent pas, et donc pour nous, il ne s'agit pas de donner un quitus à qui que ce soit à partir du moment où, dès le départ, il existe un faux, et donc il faut corriger le tout, et c'est à chaque acteur de prendre sa responsabilité et de répondre de ses obligations vis-à-vis du peuple. Voilà notre entendement de la gouvernance actuelle.
Au-delà des éléments contenus dans les cahiers des déloyances que vous avez présentés au chef de l'État, on a l'impression qu'il y a quand même des préoccupations auxquelles vous n'avez pas pensé. Hein. C'est par exemple cette question de la gratuité de l'enseignement dont le processus connaît beaucoup d'obstacles, à tel point que les écoles commencent à revenir à la case de départ avec cette prise en charge des enseignants par les parents. Il y a également ces problèmes d'emploi. On sait que les jeunes dans ces pays, dans leur ensemble, ont du mal à accéder à l'emploi. Et pourquoi, à votre avis, ces problèmes n'ont pas fait partie de façon formelle de votre cahier des doléances?
Voilà, nous avons pensé parler au nom de tous les Congolais. Effectivement, la jeunesse est une grande partie de notre population et nous nous reconnaissons aussi étant jeunes. Mais les questions que nous avons abordées concernent aussi bien la jeunesse que toute la population. Mais les questions spécifiques que vous avez évoquées ont été aussi d'une manière ou d'une autre relevées dans notre cahier de charges. Tenez, quand nous parlons des questions de gouvernance sociale et économique, nous disons par exemple qu'il y a un grand problème au niveau des inégalités de salaire et des revenus. Aujourd'hui, les jeunes n'arrivent plus à être recrutés dans l'administration publique parce que les nominations sont faites sur base davantage d'appartenance politique, mais aussi des préférences. Et nous avons décrié le problème du tribalisme et tout le reste dans les nominations. Nous avons parlé, par exemple, de questions de l'enseignement, de la RPTC, le paiement de taxes sur la communication, les 1$ qu'on veut imposer sous la téléphonie. Nous avons parlé des questions de l'enseignement, effectivement, qui posent problème parce que il nous semble que l'approche utilisée pour mettre en place la gratuité de l'enseignement n'a pas tenu en compte le besoin d'améliorer autant l'enseignement que l'infrastructure de l'enseignement, mais aussi garantir, hein, de préserver la qualité de l'enseignement dans certaines institutions qui arrivaient déjà à ce stade à garder une forme d'élite dans leur fonction d'encadrer les élèves.
Merci Dirk Chaka, on va vous redonner la parole dans le deuxième tour des tables. Chadrak Kalenga, vous êtes secrétaire et rapporteur de la coalition de la jeunesse congolaise CJC, militant pour la participation des jeunes aux instances des décisions. Vous êtes aussi secrétaire national à la NGT, Nouvelle Génération Tshisekedi, et cofondateur de la jeunesse de l'Union Sacrée. Qu'est-ce qui vous a attiré par rapport à cette initiative du chef de l'État?
Écoutez, notre réaction, notre réponse, c'était tout simplement une démarche formulée qui consistait à formuler des recommandations dans une perspective favorable au développement social et économique, d'une part, et de l'autre, en fait, il était question de nous assurer à ce que, bon, que l'on veille sur le respect du pacte républicain, c'est-à-dire le respect des institutions et de la continuité de l'État, et aussi insister sur le fait que, voilà, nous voulons d'une gestion axée sur le résultat à tout le niveau de la gestion des institutions. Et en dernier point, il était effectivement question de nous assurer que la territoriale ou encore la mise en place des entités territoriales décentralisées prennent réellement cours, parce que nous savons aussi que le développement passe par le développement des ETD en effet. Donc, notre démarche répondait effectivement à l'appel du chef de l'État dans les questions qu'il a énumérées, notamment la Commission électorale nationale indépendante et l'organisation des élections, l'instauration de l'état de droit et l'indépendance de la justice, le portefeuille de l'État, la sécurité, la diplomatie et la paix, la territoriale et enfin l'intégration des jeunes. Voilà.
Et au-delà de tout ça, vous avez aussi demandé au chef de l'État, n'est-ce pas, de mettre fin à cette coalition FCCH, hein, qui est devenue, n'est-ce pas, le leitmotiv hein, dans les desiderata de beaucoup de gens qui sont reçus par le chef de l'État ces derniers temps. Et donc, vous êtes aussi d'avis que le problème fondamental actuellement dans ces pays, c'est cette coalition FCCH?
Voilà, notre démarche est inscrite, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une perspective où nous voulons que le respect du pacte républicain soit tenu, c'est-à-dire que les institutions soient respectées et qu'il y ait continuité de l'État. Quand nous constatons qu'il y a un groupe d'individus dans la sphère des acteurs politiques au pouvoir qui, d'une certaine manière, sont un frein à l'évolution, je pense qu'il s'impose, en fait, ce que nous recommandons à ce que cette coalition finisse. Parce que nous pensons qu'effectivement, nous voulons que l'État continue, nous voulons qu'au regard des défis que notre pays a, que ce soit au niveau de l'économie, que ce soit au niveau de la culture, bah, qu'il faille que l'État soit concentré sur l'exercice de ses fonctions et qu'à la place, nous ayons des guéguerres politiques. Non, nous ne sommes pas d'accord. Et donc nous, en tant que composante jeune, nous sommes décidés effectivement d'écrire et de faire parvenir ces recommandations, dont la fin de cette coalition qui ne bénéficie pas en fait au peuple congolais tout entier, la jeunesse incluse.
Et qu'est-ce que vous avez proposé, chef de l'État, comme mécanisme, n'est-ce pas, pour mettre fin à cette coalition FCCH? Parce qu'il ne faut pas se limiter à faire des propositions. Je pense qu'il faut aussi lui dire comment il peut procéder, selon vous, jeune, hein, pour mettre fin à cette coalition qui semble vous gêner.
Alors, je pense qu'à ce niveau, la démarche du chef de l'État reste une démarche républicaine et qui se conforme aux lois de la République. Et donc, nous restons confiants quant à la suite, dans ce sens où les consultations devraient absolument aboutir à la nomination d'un informateur qui, lui, effectivement, pourrait identifier une majorité, parce qu'il faut qu'on le dise. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de débauchage, comme je l'ai entendu tout à l'heure, lorsque la personne responsable s'affranchit d'une aliénation qui a été longtemps appelée mot d'ordre. Et nous n'attendons pas, en fait, des acteurs politiques ou sociaux de diriger le pays ou de parler au nom des Congolais sous les mots d'ordre. Donc aujourd'hui, il sera peut-être effectivement, nous espérons et nous le souhaitons, que la démarche du chef de l'État aboutisse à la nomination d'un informateur tel que la Constitution le veut pour qu'effectivement une nouvelle majorité soit identifiée ou encore une nouvelle coalition réellement déterminée ou encore nationaliste pour que l'État continue et qu'effectivement au-delà des clivages politiques, que le bien-être des Congolais soit placé au centre.
Dans les idées que vous avez proposées au chef de l'État, il y a celle d'associer davantage les jeunes à la gestion de la chose publique. Et donc, vous êtes convaincu que le fait d'associer les jeunes pourrait apporter de la nouveauté, pourrait apporter un changement par rapport à ce qui a toujours été fait?
Notre population est estimée à 80 millions de personnes. Et c'est une estimation qui est peut-être désuète. Aujourd'hui, on peut parler de beaucoup plus. Et plus de 60% de la population congolaise est jeune. La moyenne des Congolais a 17-16 ans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les réalités sont telles que, plus que les jeunes, nous ne voyons pas quelles composantes pourraient effectivement adresser les problématiques de l'heure, plus que la jeunesse. Aujourd'hui, l'intelligentsia congolaise, que ce soit localement, que ce soit dans le monde, dans tous les domaines, dans la culture, dans l'aéronautique, il est prouvé que nous avons de la ressource à ce niveau. Et qu'il est temps finalement que cette jeunesse fasse partie du jeu. Aujourd'hui, nous voulons que des décisions soient prises avec nous, pour nous, et non un groupe de personnes qui traversent les régimes et qui, voilà, viennent imposer une certaine hégémonie qui n'a pas de rapport avec la réalité, qui n'a pas de rapport avec les vraies aspirations des Congolais.
Et que répondez-vous à ceux qui rappellent que la plupart des présidents de ces pays, depuis son indépendance, ont été des jeunes, hein? Kassavubu, Lumumba, Mobutu, Joseph Kabila, étaient tous des jeunes lorsqu'ils ont accédé les uns au pouvoir, les autres aux affaires. Mais en dépit de cela, leur gestion a été décriée. Et vous pensez que c'est un problème de jeunesse ou c'est plutôt un problème de vision et de conscience?
Vision et conscience, je suis d'accord avec vous, mais j'aimerais vous rappeler que Joseph Désiré Mobutu ou encore Joseph Kabila ont accédé au pouvoir par concours de circonstances. Et nous ne sommes pas en fait une république qui va être dirigée ou gérée par une génération spontanée. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous avez des jeunes tels que Patrice Emery Lumumba qui ont emporté un combat en amont et que voilà, son accession à la tête du gouvernement n'était pas une génération spontanée et que c'était effectivement le fruit de ce sentiment de patriotisme qui lui habitait et de toute la démarche qui a suivi après, notamment les démarches au niveau de la table ronde et tout ce qui a précédé l'indépendance. Et donc, je dirais que cette jeunesse incompétente associée à nous serait effectivement une grosse erreur. Nous parlons d'une jeunesse réellement préparée, nous parlons d'une jeunesse qui s'est inscrite dans une démarche et qui est effectivement dévouée à la cause de la République. Nous ne parlons pas d'une génération spontanée ou d'un concours de circonstances qui d'ailleurs est souvent tributaire à des éléments externes ou encore à une pression ou à des influences externes négatives.
Voilà. Merci, Sadio Kalenga. Benoît Yulama, vous êtes cadre du Front commun pour le Congo, FCC en sigle. Quelle est votre appréciation par rapport à l'initiative du chef de l'État qui consiste, n'est-ce pas, à constituer une union sacrée pour la nation?
Je salue d'abord mes co-débatteurs et les auditeurs de la radio Capi. Et nous sommes très étonnés que le président de la République ait agi de cette manière-là, en tentant de faire croire qu'il y a des diables dans la marche de la République. Nous savons que pendant le 2 ans que le président est aux affaires, il a géré le pays pendant près d'une année. C'est la présidence de la République qui gère le pays. Et rappelez-vous, la planification bâclée des projets de 100 jours, ça n'a pas été l'œuvre du FCC. Et moins encore des acteurs qu'on veut aujourd'hui accuser à tort à raison. Rappelez-vous de la multiplication de salaires à la présidence où l'enveloppe serait de plus de 70 millions de dollars. Ça, ce n'est pas le FCC. Et rappelez-vous aussi ce qui se passe dans presque 3 provinces, le Congo central, le Sankuru et la province du Kasaï, où un agent de renseignement ainsi que le conseil provincial de la police se voit interrompre une plénière en direct, et ça c'est l'état des droits à la Tshisekedi. Et tout ce que le président a prétendu dans son discours nous a énormément étonnés, surtout parler de la haine, je ne sais pas la haine de qui contre qui, alors qu'il est le président de tous les Congolais, il a été élu par tous les Congolais, et il a l'obligation de répondre devant les Congolais. Mais apparemment le président avait s'est donné des béquilles politiques en considérant que c'est la coalition qui pose le problème, alors que la gestion, même au niveau des ministères, où ses propres conseillers font 50 notes techniques par semaine, et rien n'avance, il n'y a rien de concret, il n'y a que des fanatiques, comme le dernier intervenant des co-débatteurs. Et donc, nous pensons que le problème pourrait être même le président lui-même, et nous pensons qu'il faut qu'il le dise clairement, que de chercher à se cacher derrière. Il a dit qu'il consulterait le regroupement le plus important, mais curieusement, aujourd'hui, le président est en train de consulter le CIC et consort, un tourisme à la présidence. Donc, nous pensons qu'il faut que ce soit des questions, des fois que le président soit clair, qu'il ne trouve pas un alibi pour se détourner de ce qu'il a probablement dans sa tête.
Benoît Yulama.
Allô?
Et donc, vous n'êtes pas d'accord avec ceux qui pensent que le pays est rendu ingouvernable à cause de cette coalition FCC-CACH?
Et je ne suis pas d'avis. Il faut identifier le problème qui est de procéder par des accusations totalement fausses. Le président a eu le pouvoir depuis l'année passée. Il a été investi. Le gouvernement n'est entré en fonction que le 13 septembre 2019. C'est presque une année entière qui était gérée par la présidente de la République. Alors, vous avez suivi le procès de 100 jours. Et ce qui est étonnant, pendant que le président parlait, il y a plus de 40 de nos compatriotes qui ont été tués par les forces négatives dans le sud Kivu. Ils n'en avaient même pas fait allusion. Comme si ceux qui sont décédés ne sont pas des Congolais, ils sont des Congolais, c'est cette masse qu'on nomme dans les entreprises un peu partout qui sont des Congolais, les autres ne sont pas des Congolais. Quand il y a des tournements de plus de 2 millions dans le Kasaï, là où il y a le gouvernement, UDPC, l'Assemblée provinciale UDPC,
ça le président ne le disait pas aussi, que c'est le FCC. Quand il y a un ministre en fonction, et je connais très bien qui a été mon co-débatteur, donne les instructions à un premier avocat général de la République pour qu'on puisse sur soi, sur les poursuites qui sont engagées contre le gouverneur. Les documents sont là, il y a le quotidien, le journal qui a publié l'article en donnant des indications claires. Le président ne dirait pas non plus que c'est le FCC. Donc on ne peut pas prétendre défendre la démocratie, les droits de l'homme, et puis se faire lui-même les champions de la violation des droits de l'homme et les lois de la République.
Bien évidemment.
Aujourd'hui doit être un problème institutionnel. Il n'y a rien qu'on peut aller chercher des consultations. Mais s'il estime qu'il faut rompre avec le FCC, il n'a qu'à le dire. Alors, si certains considèrent que c'est une occasion pour les autres pour pouvoir chercher des postes puisqu'ils ne peuvent plus rester au chômage, ça n'a rien à voir avec la population.
Mais non,
donc, nous pensons, oui.
Et donc, vous estimez que les problèmes, c'est plutôt le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Mais s'il vous a demandé de faire une appréciation par rapport à la gestion du pays par cette coalition FCC-CACH, qu'est-ce que vous diriez?
Oui, mais je suis dans l'objectivité, mais c'est dur. Je suis dans l'objectivité. Et je suis en train de vous donner des cas de violation des lois et de la Constitution, notamment la nomination des juges qui ont prêté serment à des conditions que vous connaissez. Alors, il y a une volonté délibérée de détruire le pays. Nous souhaitons que le président revienne à la raison et considérer que si ça marche, c'est le président Félix. Si ça ne marchait pas, c'est le FCC. C'est en tout cas une analyse qui ne reflète pas la réalité du terrain. Et donc, si le président estime qu'il y a des ministres qui ne sont pas compétents, comme notre autorité morale aussi elle avait constaté, on peut procéder à des changements. Mais considérer que lorsque ça marchait, c'est le président Félix. Lorsque ça ne marchait pas, c'est le FCC. Et en tout cas, sincèrement, c'est un discours décevant que nous ne pouvons pas supporter.
Et donc, vous proposez une autre démarche, hein, pas celle qui consiste à mettre fin à la coalition CCCH, mais celle qui consiste, n'est-ce pas, à un réaménagement du gouvernement, en élaguant, n'est-ce pas, de ce gouvernement, des ministres qui semblent ne pas être compétents.
Le président de la République est libre et la démarche est institutionnelle.
Okay.
Nous souhaitons qu'il revienne dans les institutions et de chercher un allié pour dire, on m'a demandé... Et on vous dit Lucha, association de telle, association de ceci, mais la compétence est dans tradition. Lorsqu'on ne vous a pas donné les compétences, le pouvoir d'aller engager et la population congolaise, vous ne pouvez pas engager la population congolaise.
Merci.
Et vous entendez mon deuxième interlocuteur qui insiste sur le fait qu'on peut dissoudre, mais qui va mourir? Personne ne va mourir. Mais si aujourd'hui le pays arrive à prendre le feu, je ne sais pas, c'est lui qui est en train de parler aujourd'hui au téléphone, s'il aura encore le courage de revenir sur ce micro pour parler à la radio Capi. Nous pensons qu'il faut équilibrer les choses des aigus et il faut donner la chance aux Congolais de s'exprimer. Les élections étaient claires, pourquoi alors on cherchait un formaté?
Merci.
Le débouchage qui est un acte immoral qu'on ne peut pas accepter dans une démocratie.
Merci, on a compris. Monsieur Dirk Chaka, il y a eu beaucoup de réactions de la part des auditeurs hein, qui ont aussi voulu donner leur point de vue par rapport à ce sujet. Vous allez écouter cette réflexion qui vient de l'auditeur qui nous appelle de Kindu et vous allez réagir à ça.
Président Bamungu Amuri, depuis Kindu dans la province de Maniema, rompre la coalition au pouvoir, c'est rendre ce pays ingouvernable qu'aujourd'hui. La solution à la crise actuelle se trouve entre le président Félix et Antoine Tshilombo et son prédécesseur Joseph Kabila Sange, qui doivent accepter de se parler en face et se faire des concessions.
Dire que chacun.
Ben, c'est intéressant le point de vue de cet auditeur qui renforce ce que nous venons de dire, qu'il y a un deal privé entre le chef de l'État et son prédécesseur, qui ne nous engage pas et qui ne devrait pas être la clé de la prise en otage de l'avenir de tout un pays. Ceux qui se sont engagés derrière ce deal doivent savoir en quoi s'en tenir, parce que la population, elle, n'est pas tenue à ce deal. Et je voulais aussi rappeler une chose, c'est que quand on parle des élections passées et que les uns et les autres tentent de nous donner l'impression qu'ils font mine d'oublier quelles sont les conditions catastrophiques dans lesquelles ces élections se sont déroulées. En tout cas, les résultats qui ont été publiés, à notre sens, ne reflètent pas la réalité. Il est clair que des résultats qui sont conformes à la réalité devrait être publié par la CENI de manière désagrégée pour nous permettre d'avoir une réelle perception des avis des Congolais sur les dirigeants. Et comme cela n'a pas été fait, Et donc la conséquence de tout ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont ces incohérences entre ceux qui ont fait 18 ans de chaos et d'échecs, qui donnent aujourd'hui des leçons, et ceux qui aujourd'hui ont le pouvoir et se plaignent de ne pas l'avoir. C'est donc ces incohérences qui sont la conséquence de non-prise en compte des aspirations réelles des Congolais à travers les élections. Et donc aujourd'hui, créer toute forme d'explication entre les deux acteurs, les deux parties au problème, et qui ne sont pas toutes innocentes au problème, cela n'est pas l'attente des Congolais. Les Congolais attendent qu'il y ait des réponses à leurs problèmes, qu'aujourd'hui la réforme sur l'enseignant ne soit pas gérée de manière superficielle, que les morts à Beni et les personnes assassinées trouvent de la sécurité. 659 Congolais ont été assassinés depuis une année à Beni. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de solution? Aujourd'hui, nous parlons des questions de détournement d'argent. Pourquoi ces dépassements budgétaires à la présidence chaque mois? Pourquoi ces nominations, ces multiplications des agences partout dans les bureaux de la présidence? Pourquoi au niveau du Premier ministre, il n'existe pas de politique claire en termes de rémunération pour mettre un terme aux fractures sociales qui existent? Des personnels politiques qui consomment 90% du budget de l'État,
Dirk Chaka.
Là, ce sont des réels problèmes.
Dirk Chaka, et donc aussi, on s'en tient à ce que vous venez de dire, pour vous, ce que nous vivons actuellement constitue, n'est-ce pas, les conséquences logiques des résultats officiels des élections de décembre 2018?
Exactement, ça fait partie d'un problème qui part de là. Mais alors, si ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui veulent trouver des réponses, ils n'ont qu'à adresser les vrais problèmes des Congolais. Il ne s'agit pas d'une question de positionnement entre eux que nous devons régler. Non, ce sont des ententes privées qu'ils doivent gérer en privé, mais nous, les Congolais, nous attendons des réponses institutionnelles, des réponses durables aux problèmes qui se posent.
Merci.
Je veux dire quelque chose pour terminer. La lutte, ça ne permettra pas qu'un camp politique s'emploie à contrôler les institutions, soit la CENI, la Cour constitutionnelle, pour des ambitions qui leur sont propres, que ce soit l'FCC ou CACH et les autres. Nous voulons qu'il y ait des institutions qui soient réellement indépendantes, qui jouent des rôles pour répondre aux aspirations des Congolais et non des individus. Cela est une réponse qui doit être durable et qui doit constituer un fondement.
Merci.
Qui constitue même un point de départ important pour la sauvegarde de la paix et de la démocratie dans notre pays.
Merci. Shadrach Kalenga, vous allez aussi réagir à cette réflexion qui vient de Kisangani.
J'étais à Kambo, Koko, depuis Kisangani. La proposition de la lucha est salutaire, d'autant plus que cette coalition ne permet pas le bon fonctionnement des institutions de la République, qui a comme conséquence le régressement du pays. S'agissant de l'économie, les frais loués au fonctionnement des institutions politiques sont exorbitants, détriment de la vie des souverains primaires, ce qui est impropre pour la population qui les a mandatés. D'où il faut les réduire.
Shadrach Kalenga.
Voilà, je pense qu'à ce sujet, parler de deal serait réducteur pour nous-mêmes et même pour l'ensemble des auditeurs de la population qui nous suivent en ce moment. Et donc nous avons aussi, nous, la responsabilité de rappeler à tous que la Constitution de la République démocratique du Congo est la loi suprême. Et qu'aujourd'hui, ce texte qui est notre Constitution est au-dessus de toute entente ou encore de tout accord. Ce qui fait que par conséquent, si aujourd'hui le chef de l'État entreprend une démarche qui respecte les prescrits, qui respecte la Constitution, nous ne pouvons que soutenir. Et surtout que cette démarche a pour ambition de rétablir effectivement une gestion continue de l'État, de sorte qu'il n'y ait pas d'interférence. Tel est le point. Et donc, moi, je pense, j'aimerais exhorter notre auditeur de Kisangani à aller au-delà des accords qui ne concernent pas forcément le bien-être des Congolais. Aujourd'hui, nous devons regarder vers l'avant. Regarder vers l'avant, c'est de se dire qu'est-ce qu'il faut pour le Congolais et qu'est-ce que la Constitution nous permet de faire et de ne pas faire. Je crois que c'est là la direction à prendre.
Oui, c'est vrai que Kalenga, vous parlez de l'interférence dans la gestion. Vous avez suivi Benoît Yulama, cadre du FCC, qui a plutôt évoqué un certain nombre d'actions, n'est-ce pas, entreprises par les chefs de l'État, notamment le programme des 100 jours, la gratuité de l'enseignement. En quoi vos partenaires du FCC ont gêné la réalisation de ces actions?
Alors, tant il est vrai que je suis membre d'un mouvement citoyen, peut-être proche de l'idéologie UDPS, mais je parle en tant qu'activiste, société civile pour la composante jeune. qu'à cela ne tienne, je pense qu'aujourd'hui, les actes posés par l'institution président de la République qui peinent à se faire exécuter par d'autres acteurs politiques du camp cash, cela effectivement ne peut être traduit autrement que des entraves, effectivement. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, au-delà de toutes les initiatives prises par le chef de l'État, il y a la gestion de l'État au jour le jour et qu'il faudrait effectivement qu'il n'y ait aucune entrave.
Et comment vous réagissez au propos de dire que chacun qui estime que ce que nous vivons aujourd'hui est la conséquence logique des résultats officiels des élections de 2018?
Je pense que chaque entité ou encore chaque candidat en lice disposait d'observateurs. Je pense qu'il y avait des mécanismes effectivement de contrôle qui permettait à ce que le dépouillement ou le comptage se fasse et par la société civile et par les challengers. Et donc aujourd'hui, nous avons un système tel que la Cour constitutionnelle tranche et que celui ou celle qui pense être lésé dans ses droits y aille avec des preuves, parce qu'il convient de prouver. Et donc chacun avait les moyens effectivement de revenir dessus. Et s'il s'avère qu'il y a eu une démarche qui allait vers les instances judiciaires pour établir dans les droits et que cette démarche s'est soldée par la confirmation des résultats, je pense qu'aujourd'hui, en toute responsabilité, nous devons consolider les acquis de cette passation de pouvoir démocratique qui d'ailleurs s'est faite entre une ancienne majorité et un parti d'opposition qui s'opposait farouchement, si vous allez me permettre l'expression, et qu'aujourd'hui nous sommes dans un processus où chaque Congolais devrait se dire quelle est la prochaine étape et quelle est l'attitude à prendre pour aller de l'avant.
Merci. Voilà. Benoît Hulama, vous allez aussi réagir à cette réflexion qui vient de Kinshasa.
Monsieur John nous parle depuis la ville-province de Kinshasa. Ces consultations sont très nécessaires pour sauver le pays, car il est dirigé par une coalition formelle qui, psychologiquement, est une cohabitation. La machine roule avec un blocage répétitif. En perspective, le pays est dans une jungle extrême. J'ai vu un gouverneur de la province bafouer les ordres de la présidente de la République uniquement parce que ce dernier est du FCC. Continuer à y vivre sans passer par ces consultations serait un fiasco politique total au terme. Mon désir le plus ardent est que les décisions qui seront issues de ces consultations soient appliquées avec rigueur, notamment la question de la restauration de la paix à l'est du pays.
Monsieur Benoît Hulama.
Oui, l'élément qui m'intéresse dans l'intervention de notre compatriote, c'est le dernier élément, l'aspect de la paix, que sur des questions éminemment politiques qu'il a tenté d'évoquer, en tentant de se contredire même lui-même dans son propos. Mais j'estime que sur la paix, il n'y a aucun problème, puisque tous nous sommes déterminés à retrouver la paix et l'unité du pays. Et cela ne peut se passer que par les institutions, que des consultations, concertations que le président a amorcé à la présidence de la République. Et nous estimons aussi qu'il faut que nous respections tous les lois de la République. Et le forcing que le président de la République a fait sur les juges ne nous honore pas, puisque nos enfants apprendront ces décisions du président de la République. Et ça sera une catastrophe pour la nation. Que nos enfants qui étudient ici apprennent qu'un président en fonction avait violé la Constitution puisqu'il voulait probablement se positionner pour son avenir politique. Cela est inacceptable. Et je salue aussi le message du cardinal Monsengo ainsi que de M. Olenga Nkoy qui ont appelé à l'apaisement et à la raison. Et ceux qui pensent qu'il faut dissoudre la coalition, ils en tireront les conséquences puisque nous ne croiserons pas les bras pour qu'on puisse détruire cette attitude qui est sortie des élections de 2018. Il n'y a que la victoire déclarée par la CENI qui sera prise en considération et non les débouchages que le président voudrait opérer pour se faire une santé parlementaire. Cela est inacceptable.
Merci. Chadrak Kalinga, il est dit que depuis 1960, différentes générations se sont succédées à la tête de ces pays, mais les choses n'ont toujours pas changé. Et on dit que les jeunes n'ont pas su, n'est-ce pas, se démarquer des vieux. Ce sont les mêmes habitudes, les mêmes comportements, les mêmes pratiques. Et quelle est la leçon que vous, jeunes d'aujourd'hui, vous pouvez tirer de ce qui se passe actuellement dans ces pays, Chadrak Kalinga?
Je pense que la première leçon est celle de ne pas pointer les doigts sur les uns et sur les autres. Si on se réfère au contexte, je pense que parler de génération est un faux problème. Aujourd'hui, nous sommes tous Congolais, jeunes et vieux, et je pense qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'une frange soit exclue de la gestion.
Nous sommes à la fin de l'émission, c'est quoi la conclusion? Qu'est-ce que vous proposerez, n'est-ce pas, pour que les choses aillent de mieux en mieux dans ces pays?
Nous pensons tout simplement que nous devons dépasser les clivages politiques dans ce sens où le Congo est notre patrie et qu'avant tout acteur politique de tous bords, nous devons militer pour le bien-être des Congolais et le bien-être effectivement de notre pays.
Dire que chacun, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là.
Voilà, on a toujours reproché aux jeunes le fait de ne pas être en mesure, n'est-ce pas, de se démarquer des vieux depuis que le pays a accédé à l'indépendance. Hein. À la tête du pays, il y a eu des jeunes, mais les choses n'ont pas changé, c'est les mêmes habitudes, les mêmes pratiques. Et quelle est la leçon que vous, jeunes, vous pouvez tirer de ce qui se passe actuellement dans ce pays?
Merci. Quelles leçons tirer? Effectivement, c'est que nous devons être un pays qui met au-dessus de toutes choses les lois de la République, qui ne devrait pas avoir d'acteurs politiques qui soient au-dessus des textes de la Constitution, que nous devrions être une jeunesse qui pense à l'avenir et qui la construit. Nous devons sortir du mythe du spiritualisme ou de penser que nous allons hériter d'un pays que nous n'avons pas construit, un pays pour lequel nous ne nous sommes pas engagés. Chaque Congolais, chaque citoyen congolais, jeune et de tout âge, doit s'engager pour un avenir meilleur pour tous les Congolais. Nous devons nous rallier autour de valeurs communes, de la patrie, de l'intégrité, de la justice, de la dignité humaine. Nous sommes un peuple qui mérite un pays tel que le destin nous l'a donné, un pays grand et merveilleux, comme on le dit, un pays qui a tout pour être un pays qui donne à chaque Congolais la paix, la dignité qu'il mérite. Et donc la jeunesse aujourd'hui n'est qu'une frange de la population. Elle doit se mettre en ordre et se préparer elle-même à relever les défis d'une société qui a été minée par un système politique qui a détruit tous les axes et les valeurs. Et donc nous pensons que des individus ne peuvent pas, il faut qu'on mette en place un système qui permette d'assurer aux Congolais leur bien-être. Et pour cela, la jeunesse doit se remettre en cause. Elle doit s'engager autour des valeurs et des principes pour construire une société d'excellence, une société où chaque jeune est porteur d'une mission pour le bien-être collectif. C'est ça que notre mouvement s'engage et c'est dans ça que, en tant que citoyens, nous pensons que nous devons être conscients de notre pouvoir, de notre force, être au-delà de la politique. Parce que nous pensons que des bons citoyens sont mieux que les acteurs politiques. Il faut d'abord être un bon citoyen avant d'être un bon politique.
Merci.
Et aujourd'hui, nous appelons les Congolais à s'engager sur les thématiques de la paix et de la dignité. Nous ne voulons pas donner de béquilles à un camp politique. Nous voulons que les intérêts des Congolais priment au-dessus des acteurs et des différents partis.
Merci. Je considère ça comme votre conclusion. Benoît Youlama, quelle est la leçon que vous pouvez, vous, jeunes d'aujourd'hui, hein, la leçon que vous pouvez tirer de ce qui se passe actuellement dans ces pays?
Et ce qui se passe présentement, c'est un problème de conscience. Et nous n'avons pas une conscience positive. Et nous estimons qu'il faudrait que nous ayons des gens qui ont l'affection profonde du Congo, la filia, afin que par cette affection, que le Congo se transforme sur le plan économique, sur le plan social, et même sur l'avenir de nos enfants. Et nous estimons qu'il faudrait que nous puissions nous faire confiance. S'il y a un élément confiance et un aspect sociologique qu'on ne peut pas oublier, je crois que les choses peuvent aller de l'avant, mais nous devons aussi décourager les vagabonds politiques, les gens qui vagabondent, puisqu'ils n'ont pas un emploi, professeur ou pas, mais si cela va continuer, de tels comportements continueraient, et je crois que c'est le Congo qui en perdra et le Congo qui pourra davantage sombrer.
Merci.
Mais nous avons l'espoir puisqu'il y a une jeunesse qui est capable de réfléchir, pas des jeunesses qui s'alignent pour des raisons sociologiques ou tribales. Mais nous devons s'arrêter le népotisme où il y a que des nominations, plus de 90% des nominations ne sont que des frais. Cela n'est pas la démocratie et c'est ce qu'il faut bannir dès maintenant.
Merci, c'est la fin de cette émission. Bob Landoté à la technique, Kéline Kouté et Donald Madimba ont réalisé cette émission sous la supervision d'Axel Gonceau. À la présentation, Guy Maté. Merci et bon suite des programmes sur Radio Capital.